Ben-Hur, chapitre 1, rencontre dans le désert. Le Jebel Ez-Zublé est une chaîne de montagnes peu élevée, longue d'environ 50 kilomètres. Du haut des rochers de grès rouge qui la composent, la vue ne découvre au levant, si loin qu'elle peut s'étendre, que le désert d'Arabie. Les sables charriés par l'Euphrate s'amoncellent au pied de la montagne, qui forment ainsi un rempart, sans lequel les pâturages de Moab et d'Ammon feraient eux aussi partie du désert. Une vallée partie de l'extrémité du Jebel et se dirigeant de l'est au nord pour devenir le lit du Jabbok traverse la route romaine qui n'est plus aujourd'hui qu'un simple sentier, suivi par les pèlerins qui se rendent à la Mecque. Un voyageur venait de sortir de cette vallée. Il paraissait avoir 45 ans. Sa barbe, jadis du plus beau noir, commençait à s'argenter. Son visage, à demi caché par le keffieh, mouchoir rouge qui recouvrait sa tête, était brun, comme du café brûlé, et ses yeux, qu'il levait par moments, étaient grands et foncés. Il portait les vêtements flottants en usage dans l'Orient, mais on ne pouvait en distinguer les détails, car il était assis sous une tente en miniature, disposée sur le dos d'un grand chameau blanc. C'était un animal digne d'admiration que ce chameau. Sa couleur, sa hauteur, la largeur de son pied, sa bosse musculeuse, son long col de cygne, sa tête large entre les yeux et terminée par un museau aussi mince qu'il aurait tenu dans un bracelet de femme, son pas élastique et égal, tout prouvait qu'il était de cette pure race syrienne dont l'origine remonte au jour de Cyrus, et par conséquent absolument sans prix. Une frange rouge s'étalait sur son front. Des chaînes de bronze terminées par des sonnettes d'argent entouraient son cou, mais il n'avait ni bride ni licole pour le conduire. En franchissant l'étroite vallée, le voyageur avait dépassé la frontière d'El-Belka, l'ancien Ammon. C'était le matin. Devant lui montait le soleil, noyé dans une brume légère, et s'étendait le désert. Ce n'était point encore le désert de sable, mais la région où la végétation commence à s'étioler, où le sol est jonché de blocs de granit et de pierres brunes ou grises, entre lesquelles croissent de maigres mimosas et des touffes d'alpha. De route ou de sentier, plus de traces. Une main invisible semblait guider le chameau. Il allongeait son pas et, la tête tendue vers l'horizon, il aspirait par ses narines dilatées des bouffées de vent du désert. La litière où se reposait le voyageur se balançait sur son dos comme un navire sur les flots. Parfois, un parfum d'absinthe embaumait l'air. Des alouettes et des hirondelles s'envolaient devant eux et des perdrix blanches fuyaient à tire-d'aile avec de petits cris éperdus, tandis que de temps à autre, un renard ou une hyène précipitait son galop pour considérer de loin ses intrus. À leur droite s'élevaient les collines du Jebel, enveloppées d'un voile gris-perle, qui prenait aux rayons du soleil levant des teintes violettes d'une incomparable intensité. Au-dessus de leur sommet le plus élevé, un vautour planait en décrivant de grandes orbes. Mais rien de tout cela n'attirait l'attention du voyageur. Son regard était fixé sur l'espace. Il semblait, comme sa monture, obéir à un mystérieux appel. Pendant 2 heures, le dromadaire fila tout droit dans la direction de l'Orient. Si rapide était son allure que le vent lui-même ne l'aurait pas dépassé. Le paysage changeait peu à peu. Le Jebel ne paraissait plus être, à l'horizon occidental, qu'un simple ruban bleu. Les pierres diminuaient, du sable, rien que du sable, ici uni comme une plage, là ondulé comme des vagues, ou bien encore s'élevant en longues dunes. Le soleil, débarrassé maintenant des brumes qui l'entouraient à son lever, réchauffait la brise et jetait sur la terre une lumière blanche, aveuglante, et faisait flamboyer l'immense voûte du ciel. 2 autres heures passèrent encore. Plus trace de végétation sur le sable durci, qui se fendait sous les pas du dromadaire. On ne voyait plus le Jebel, et l'ombre, qui jusqu'alors les avait suivis, s'inclinait maintenant vers le nord et courait sur la même ligne qu'eux. Cependant, le voyageur ne paraissait pas songer à s'arrêter encore. À midi, le dromadaire fit halte de son propre mouvement. Son maître se redressa comme s'il s'éveillait, considéra le soleil, puis scruta attentivement tous les points de l'horizon. Satisfait de son inspection, il croisa ses mains sur sa poitrine, baissa la tête et se mit à prier silencieusement. Quand il eut terminé sa prière, il ordonna au dromadaire de s'agenouiller en poussant ce « hir hir » guttural, déjà familier sans doute au chameau favori de Job. Lentement, l'animal obéit. Le voyageur posa un pied sur son cou frêle. Un instant plus tard, il se trouvait debout sur le sable. Cet homme, on pouvait s'en apercevoir maintenant, était d'une stature admirablement proportionnée, plus puissante qu'élevée. Il détacha le cordon de soie qui retenait son keffieh sur sa tête et le rejeta en arrière, découvrant ainsi son visage énergique, presque aussi noir que celui d'un Africain. Son nez aquilin, les coins légèrement relevés de ses yeux, son front large et bas, entouré d'une profusion de cheveux aux reflets métalliques retombant en tresses nombreuses sur ses épaules, trahissait son origine. Tels devaient avoir été les pharaons et les Ptolémées, tel aussi Misraïm, le fondateur de la race égyptienne. Il portait une chemise de coton blanc aux manches étroites, sur laquelle il avait jeté un manteau de laine. Ses pieds étaient chaussés de sandales, assujettis par de longues courroies. Il était absolument sans armes, chose étrange pour un voyageur traversant le désert, hanté par des bêtes fauves et par des hommes plus féroces qu'elle. Il fallait donc qu'il eût en vue une mission pacifique, qu'il fût exceptionnellement brave, ou peut-être qu'il se sentît l'objet d'une protection toute spéciale. Il fit plusieurs fois le tour de son fidèle serviteur, frappant ses mains l'une contre l'autre et ses pieds sur le sol pour les dégourdir après ses longues heures d'immobilité, et souvent il s'arrêtait pour interroger l'espace en abritant ses yeux sous sa main. Évidemment, il avait donné rendez-vous en cet endroit perdu à quelqu'un qui tardait à paraître, mais sur lequel il comptait, en jugé par les préparatifs auxquels il se livrait. Il prit dans la litière une gourde pleine d'eau et une éponge, avec laquelle il lava les yeux et les narines du chameau. Après quoi, il dressa sur le sable une tente, au fond de laquelle il étendit un tapis. Cela fait, il examina une fois encore la plaine sans limite, au milieu de laquelle il se trouvait. Mais, à l'exception d'un chacal, galopant au loin, et d'un aigle qui dirigeait son vol vers le golfe d'Aqaba, aucun être vivant ne se dessinait sur le sable blanc, ni sur le ciel bleu. Il se tourna vers le chameau en disant à voix basse « Nous sommes bien loin du lieu de notre demeure, ô coursier plus rapide que les vents, mais Dieu est avec nous, sachons être patients. » Puis il suspendit au cou de l'animal un sac de toile plein de fèves. Et toujours il épiait l'océan de sable sur lequel les rayons du soleil tombaient verticalement. « Ils viendront, » disait-il avec calme, « celui qui me guidait les guide également. » Il tira d'une corbeille un osier déposé dans une des poches de la litière trois assiettes en fibre de palmier, du vin renfermé dans de petites outres, du mouton séché et fumé, des grenades de Syrie, des dattes d'El-Chélébi, du fromage, du pain. Il disposa le tout sur un tapis qui garnissait le fond de la tente, puis il plaça à côté des provisions trois de ces serviettes de soie, dont se servent les orientaux de distinction, pour se couvrir les genoux durant les repas. Tout était prêt, maintenant, et il sortit de la tente. Ah ! Là-bas, à l'orient, un point noir venait de paraître. Les pieds comme rivés au sol, les yeux dilatés, il semblait se trouver en face d'une chose surnaturelle. Le point grandissait, il prenait une forme. Bientôt, il distingua clairement un dromadaire blanc, absolument semblable au sien, et portant sur son dos la litière de voyage des hindous. Alors, l'Égyptien croisa ses mains sur sa poitrine et leva les yeux vers le ciel en s'écriant « Dieu seul est grand !» L'étranger approchait. Enfin, il s'arrêta. lui aussi semblait sortir d'un rêve. Il vit le chameau agenouillé, la tente dressée, l'homme debout à sa porte, dans l'attitude de l'adoration, et lui-même, baissant la tête, pria silencieusement. Après quoi il mit pied à terre et s'avança vers l'Égyptien qui venait à sa rencontre. Ils se regardèrent un instant, puis chacun d'eux passa son bras droit sur l'épaule de l'autre et ils s'embrassèrent. « La paix soit avec toi, ô serviteur du vrai Dieu, » dit l'étranger. « Et avec toi, ô frère, en la vraie foi, sois le bienvenu, » répondit l'Égyptien. Le nouveau venu était grand et maigre. Il avait un visage émacié, des cheveux comme sa barbe, des yeux enfoncés, un teint bronzé. Lui aussi était sans armes. Il portait le costume de l'Hindoustan. Un châle s'enroulait en turban autour de sa tête. Ses vêtements ressemblaient à ceux de l'Égyptien, mais son manteau était plus court et laissait passer de larges manches flottantes serrées aux poignets. Ses pieds étaient chaussés de pantoufles rouges aux pointes relevées, la seule chose dans son costume qui ne fût pas blanche. Il semblait être la personnification de Vinistra, le plus grand des héros de l'Iliade de l'Orient, la dévotion incarnée. « Dieu seul est grand !» s'écria-t-il quand ils eurent fini de s'embrasser. « Bénis soient ceux qui le servent !» répondit l'Égyptien. « Voici celui que nous attendons encore, approche !» Et les yeux tournés vers le nord, ils regardaient un dromadaire blanc qui se dirigeait vers eux avec un balancement de navire. Debout à côté l'un de l'autre, ils attendirent jusqu'au moment où le nouvel arrivant, quittant son coursier, vint à eux pour les saluer. « La paix soit avec toi, ô mon frère » dit-il en embrassant l'hindou. Et l'hindou répondit « La volonté de Dieu soit faite !» Le dernier arrivé ne ressemblait pas à ses amis. Il était plus finement membré qu'eux, il avait la peau blanche. Ses yeux clairs et bouclés formaient une auréole autour de sa tête, petite mais belle. Ses yeux bleus foncés réfléchissaient une âme tendre et délicate, une nature à la fois douce et brave. Il semblait ne posséder ni coiffure ni armes. Sous les plis d'une couverture de tire, qu'il portait avec une grâce inconsciente, apparaissait une tunique sans manches, retenue à la taille par une ceinture et qui laissait libre le cou, les bras et les jambes. Des sandales protégeaient ses pieds. 50 années, peut-être davantage, avaient passé sur lui sans effet apparent, si ce n'est qu'elles avaient empreint ses manières de gravité et donné du poids à sa parole. Si lui-même ne venait pas d'Athènes, ses ancêtres certainement devaient en être. Quand il eut fini de saluer l'Égyptien, celui-ci dit d'une voix émue « C'est moi que l'Esprit a fait arriver ici le premier. J'en conclus qu'il m'a choisi pour être le serviteur de mes frères. La tente est dressée, le pain prêt à être rompu. Laissez-moi remplir les devoirs de ma charge. » Et les prenant par la main, il les introduisit dans la tente, enleva leurs chaussures et lava leurs pieds, puis il versa de l'eau sur leurs mains et les essuya avec un linge. Ayant ensuite lavé ses mains, il dit « Mangeons maintenant, afin de reprendre des forces pour accomplir notre tâche. Pendant notre repas, nous nous raconterons les uns aux autres qui nous sommes, d'où nous venons, comment nous avons été appelés. » Il les fit asseoir en face l'un de l'autre. Simultanément, leurs têtes s'inclinèrent, leurs mains se croisèrent, et tous ensemble, ils rendirent grâce à haute voix. « Père de tout ce qui vit, Dieu, ce que nous avons ici vient de toi. Reçois nos hommages et bénis-nous, afin que nous puissions continuer à faire ta volonté. » Ils se regardèrent avec étonnement quand ils se furent tus. Chacun d'eux avait parlé dans sa propre langue, et pourtant, ils s'étaient compris. Leurs âmes tressaillirent d'émotion, car ce miracle leur prouvait qu'ils se trouvaient en la présence de Dieu.